carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
L'atelier est un grand vestiaire, jonché de vêtements qui tiennent debout, tout seuls. Pas de cintre, pourtant. Ces vestes, imperméables, par-dessus, noires ou blancs, sont en bronze ou en marbre, et parfois en plâtre. Sur un mur, dans un coin, des bouts de plâtre, froissés, pliés, attendent pour servir d'ébauche à de nouveaux manteaux. Le sculpteur Claude Abeille est habité depuis 30 ans maintenant, par ce projet de représenter l'homme par son habit d'apparat, de réfléchir sur la vacuité de l'être. Un regard empreint de douceur, loin d'une démarche nihiliste, dit-il. Claude Abeille, membre de l'Académie des Beaux-Arts, nous a donc reçus dans sa petite maison près de Paris. Le rez-de-chaussée sert d'atelier de sculpture, et puis le premier étage recèle les dessins, les crayonnés et les aquarelles. Nous nous y rendrons dans une seconde partie. Également présente dans l'atelier, l'historienne de l'art, Lydia Rambourg, dont vous pourrez entendre plusieurs interventions et commentaires dans cette émission. Et puis, pour nous accompagner en musique, Claude Abeille a choisi lui-même quelques œuvres qui lui tiennent particulièrement à cœur. Le cycle de Lieder Winterreise de Franz Schubert, où Claude Abeille dit avoir trouvé quelque inspiration pour ses vestes d'hiver, des œuvres de Scarlatti, de Thelonious Monk et de Jean-Louis Florence, dont un buste trône dans l'atelier. Vous trouverez toutes les références exactes sur notre site www.canalacademy.com. Également sur la page internet consacrée à Claude Abeille sur Canal Académie, vous pourrez voir de nombreuses photos prises par le photographe Louis Monnier et par Claude Abeille lui-même, ainsi que quelques références biographiques. Mais tout de suite, commençons par un tour d'horizon dans cet atelier à Romainville, où Claude Abeille nous a reçus. Claude Abeille, vous êtes dans cet atelier depuis 30 ans et beaucoup de sculptures se sont accumulées dans cette pièce, dans cet atelier, avec une disposition, j'imagine, que vous bougez peut-être de temps en temps.
Ah oui, c'est presque tout le temps, oui. Oui, enfin tout le temps non, mais là vous voyez les sculptures un peu présentées, si je puis dire. Mais en général, elles sont dans des coins parce qu'il faut, de la place pour travailler.
Est-ce que vous voudriez bien nous présenter votre dernière œuvre? On va faire par ordre chronologique inverse, peut-être, si ça vous convient.
Alors là, mes dernières œuvres sont plutôt en haut, mais on ira les voir après. D'accord. Mais enfin, une des dernières, je dirais, c'est celle-là. Que j'appelle la mélancolie, et aussi celle-ci qui est, ça s'appelle le voyage d'hiver. C'est un personnage un peu en rapport avec ce que j'aime, c'est-à-dire j'aime beaucoup la musique, et c'est par rapport à Schubert, le voyage d'hiver. Donc c'est un personnage comme ça qui marche. Voilà, ce sont les deux dernières, en bronze en tout cas, parce que je fais aussi de la résine, mais qui est en haut. Voilà. C'est pour ça on le verra tout à l'heure.
Alors, sur ces sculptures, les visages apparaissent. C'est assez nouveau chez vous.
Oui, parce que pendant assez longtemps, la plupart des sculptures avaient une tête, mais je l'enlevais. Parce que ça ne correspondait pas à ce que je voulais. C'est-à-dire, voilà, je voudrais trouver un visage qui soit caractéristique de mon temps, enfin de moi ou des autres. Et je n'y parvenais pas. Donc, au moins, je faisais les vêtements. c'est nous, au fond, les vêtements, c'est quand même, ça nous représente, en tout cas dans la société. On se voit, il arrive qu'on se voit tout nu, mais c'est pas très, très courant. Et je me suis aperçu que les vêtements, c'était comme une anatomie seconde qui était très, très explicite de ce que nous sommes, parce qu'on on dit toujours l'habit ne fait pas le moine, mais si, en grande partie. Et donc, ça me paraissait intéressant. En tout cas, c'est ce que j'aimais, c'était essayer d'exprimer quelque chose avec le vêtement, plutôt qu'avec l'anatomie qui était, je dirais, l'art dit classique. Parce que tous ces mots ne veulent pas dire grand-chose, mais enfin, l'art classique, c'était quand même le nu dans des positions, etc. Au début, je ne pensais pas faire ça longtemps, et puis je me suis rendu compte que c'était d'une richesse incroyable. Quand je suis dans le métro, je regarde les gens assis en face de moi, et ils ont tous des vêtements plus ou moins différents, des plis plus ou moins différents. Bref, je pourrais avoir 3 vies et encore continuer, je crois, parce que c'est merveilleux.
Et là, les personnages ont aussi plusieurs couches de vêtements.
Voilà. Alors ça, oui, c'est parce que à ce moment-là, le vêtement devient un peu symbolique de nous, effectivement, au fur et à mesure qu'on vit, ou même, on a plusieurs personnages en nous-mêmes. Mm-hmm. Évidemment, on n'est pas unique. Ça dépend de ce qu'on fait dans la vie, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, mm-hmm. Et en plus, au fur et à mesure que la vie passe, on change aussi, mm-hmm. évidemment. C'est la richesse même du thème qui est, j'ai trouvé, extraordinaire. Alors, au début, c'est mon imperméable qui m'a un peu inspiré. Puis, en regardant toutes les œuvres dans les musées, on voit que le vêtement est partout présent, mais d'une manière un peu différente. C'est-à-dire que les sculpteurs, en général, ils font d'abord le nu, puis ensuite ils drapent, comme on disait. On drape autour du nu. Donc, le vêtement est simplement une peau supplémentaire. Tandis qu'en prenant le vêtement lui-même comme thème, à ce moment-là, il devenait plus important.
Et des vêtements en mouvement qui sont...
Et en mouvement, voilà.
Qui sont habités,
alors,
quelque part.
La baroque a beaucoup utilisé ça aussi, mais c'était un prolongement du personnage. Tandis que là, le vêtement, il est seul, enfin. Et donc il y a une sorte de vide, qui correspond à des interrogations de notre époque.
Voilà. Habité par le vide.
Oui, c'est ça. Mais alors, ce que je voudrais pas, c'est que ce soit le nihilisme. Je déteste ça. Non, c'est pas ça. C'est plutôt une attente. Je pense qu'on est dans une période. Enfin, toutes les périodes sont un peu comme ça. Mais la nôtre, quand même, particulièrement de changement en France, en Europe. Moi, je suis un peu dans l'attente. Donc, voilà. D'ailleurs, il y a des sculptures qui s'appellent comme ça, l'attente.
Qu'est-ce que représentent exactement les plis dans ces sculptures? Pour moi, ça, j'y vois du froissé, puis j'y vois aussi quelque chose de festif, un peu comme oui. Les boursouflures d'une robe de mariée.
C'est inventé. Évidemment, je regarde les plis, mais je n'ai jamais copié réellement un pli. Mmh. Non, il y a une structure du pli qui est finalement assez simple. C'est-à-dire.
C'est une façon de capter la lumière aussi.
Oui, c'est ça. C'est fait avec la lumière. La sculpture, ça consiste en des plans. Ce sont des plans, toute la sculpture, de tous les sculpteurs, enfin les vrais sculpteurs, ce sont des plans. Moi, je me souviens des grandes sculptures de Pevsner, qui est cet artiste abstrait. Il a fait des sculptures qui disaient qu'elles étaient développables, c'est-à-dire qu'elles pouvaient, au fond, se réduire à des plans, ou à un seul plan, comme ça. C'est une idée absolument de sculpteur. Et il est certain que les vêtements sont des plis, mais au départ, le tissu, il est plat, c'est un plan, au fond. Et le fait de faire des plis, c'est de prendre le plan, je dirais, la surface du tissu et de le transformer en sculpture en faisant un plan qui est modulé, alors selon la lumière ou selon le mouvement, en général les deux en même temps.
Dans les débuts de vos sculptures, vous avez surtout représenté des torses, donc l'anatomie.
Oui.
Et cette anatomie ressort maintenant un petit peu.
Oui, non, c'était, enfin les torses, c'était un peu, parce que je me demandais bien quelle était ma façon de faire, au fond. Parce que quand on est jeune, on fait un peu selon ce que font les autres. Bon. Et alors je me demandais, mais moi, est-ce que j'ai une démarche à moi ou est-ce que je me le demandais. Et je me suis dit, ben, je vais faire les choses les plus banales de la sculpture, le torse. Le torse, c'est quelque chose qui existe depuis des milliers d'années. C'est vraiment c'est un thème qui est récurrent, enfin, et banal, au fond. Et je me suis dit, ben, je vais faire ça, et puis je verrai bien avec ça si j'ai une façon de faire à moi, donc sans réfléchir. Et je me suis mis à faire des torses, j'en ai fait une bonne dizaine, même plus. Et puis, je me suis. Ces torses, au fond, m'ont été une sorte de vocabulaire que j'avais mis au point, sans trop réfléchir. Et quand j'en ai eu un certain nombre, alors je les ai montrés à Couturier, qui avait été mon professeur. Ah, il m'a dit, oui, c'est bon, oui, ça va. Et alors, c'est un peu grâce à lui que j'ai eu le prix Bourdelle, bon, qui m'a un peu mis dans le monde de la sculpture. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai travaillé pour l'éducation nationale. Enfin, j'ai fait ce qu'on appelle des 1%. Mais bon, c'était dans des conditions intéressante parce que ça permettait de travailler, de faire des choses dans la lumière extérieure, mais bon, enfin, c'est un peu difficile d'en parler comme ça parce que c'est un problème assez compliqué. Mais à partir de ce moment-là, j'ai eu ce moment où je me suis demandé ce que j'avais à dire au fond de moi. Donc c'était plus un problème de forme, c'est un problème de sens. Quoi. C'est pour ça que c'est imperméable. Qui est un peu ridicule, mais qui a été pour moi le sens, c'est de dire que ce qu'on voit de nous, c'est ça, et après tout, tous les artistes ont toujours montré.
Est-ce que dans vos vêtements, on retrouve quand même pas un peu vos torses?
Si.
Est-ce que dans vos torses, vous ne retrouvez pas
Oui, bien sûr. Mais si, bien sûr. Bon, alors là, c'est une question. Je me suis toujours posé cette question. Pourquoi je fais toujours des sculptures verticales? Il y a des sculpteurs que j'ai Giacometti, que j'aime beaucoup, Couturier. Ce sont des sculpteurs qui sont dans la verticalité. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais on peut en parler d'ailleurs. Mais enfin. Et il y en a d'autres qui, bon, Henri Moore, assez volontiers, il est plutôt dans l'horizontalité. Bon, voilà, c'est, mais je ne sais pas pourquoi, c'est simplement, c'est une démarche.
Certains de vos manteaux ressemblent à ces stèles.
Oui, c'est-à-dire que...
Ce mot qu'on prenait aussi pour qualifier certains de vos torses.
Oui, alors oui, c'est ça, ce sont des, en un sens, ce sont des stèles. Et le vêtement a permis de donner au torse une autre existence, une façon d'être qui est dans l'époque, plutôt que le torse qui sont toujours un peu... je ne dirais pas qu'on ne peut pas les dater, mais enfin, c'est toujours un peu intemporel, c'est le corps de la femme, bon, ou de l'homme, mais c'est surtout le corps de la femme qui est... c'est éternel, bien sûr. Mais tandis qu'avec les vêtements, on peut caractériser plus, on peut raconter une histoire, je dirais. Pas une histoire anecdotique, mais une histoire de forme. Voilà.
Il y en a certaines qui me rappellent vraiment le Balzac de Rodin. Est-ce que vous me retrouvez aussi ?
Oui, c'est un peu un hasard, parce que j'aime beaucoup, beaucoup Rodin, mais je me suis jamais préoccupé de Rodin, si vous voulez. J'étais plutôt au début quelqu'un qui aime Maillol. Voilà. Enfin, ils ne sont pas non plus ennemis, mais... Oui, alors, j'ai fait une sculpture qui s'appelle Mon Balzac. Parce que, effectivement, le manteau de Balzac de Rodin, j'y ai pensé. Mais pas seulement. Il y a beaucoup d'autres manteaux ou d'autres vêtements dans l'histoire de l'art qui sont tout à fait caractéristiques. Et notamment, par exemple, la tunique du Christ qui reste au bas de la croix. C'est un symbole extraordinaire, parce que c'est un peu lui aussi dans cette... Donc ça, c'est, je dirais, c'est plutôt ça qui m'a intéressé plutôt que Rodin, au fond. Rodin, c'est un génie, bon, et puis voilà, on va le voir parce qu'on est content. Mais je ne crois pas qu'on puisse partir de Rodin, je ne crois pas, ça reste un grand ancêtre. Voilà.
Sie pfiff den armen Flüchtling aus. Er hätte sie bemerken sollen, des Hauses aufgestellte Schild, so hätte er immer suchen wollen, im Haus ein treues Frauenbild. Der Wind spielt Tränen mit den Herzen wie auf dem Dach. Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine reiche Braut. Die Wind spielt Tränen mit den Herzen wie auf dem Dach, nur nicht so laut. Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine reiche Braut.
Vous travaillez surtout le plâtre?
Oui, alors ça c'est grâce à Couturier, et c'est une des caractéristiques des sculpteurs français. Moi, je ne savais pas, mais c'est un sculpteur italien qui m'a dit ça. C'est Busato qui m'a dit un jour, « Ah, mais c'est drôle, mais ce sont les Français qui travaillent le plâtre. » Et moi, je pensais que tout le monde travaillait le plâtre. Et il me disait, « Oui, les Italiens aussi. » Mais pour les Italiens, c'est plutôt un matériau de transfert entre la terre et le bronze. Tandis que les sculpteurs français travaillent très volontiers le plâtre par lui-même. Et donc, alors Couturier, bien sûr, ça, aussi Maillol. Alors, au XIXe siècle, Dalou. Il semble que ce soit une tradition française. C'est peut-être dû aussi au fait que le plâtre de Paris, dit de Paris, est un plâtre d'une qualité très particulière. Très, Bon, voilà, mais je fais aussi du marbre, je fais aussi de la terre glaise, tout ça, ce sont les choses très, très traditionnelles. Je n'ai jamais pensé que le fait, par exemple, de souder était quelque chose de... c'est nouveau, mais ça m'a jamais sollicité. Il y a beaucoup de sculpteurs qui travaillent le métal, qui soudent. Olivier Descamps, c'est un des premiers... avec César et d'autres qui ont fait ça, mais ça m'a jamais... J'ai essayé, mais ça m'embêtait plutôt. Donc je pense qu'avec une démarche tout à fait traditionnelle, on peut dire les choses les plus actuelles et les plus modernes.
Je vois vos drapés qui sont en préparation, et ça rappelle beaucoup de choses dans l'histoire de la sculpture, et vous les appropriez, ces drapés, vous en faites autre
chose. Alors ça, ce sont, je dirais, des choses qui sont faites... des morceaux de plâtre qui sont faits sans comme ça, sans but, et qui sont là en attente, et je vais les utiliser comme des matériaux. Il y a une chose qui m'avait frappé avant de faire la sculpture, j'ai travaillé chez Gallimard, donc chez un éditeur, et j'avais connu Jean Paulhan. Et j'étais allé le voir avec mes premiers essais, comme ça, et il m'avait reçu chez lui, et j'avais vu, il avait un bureau dont les murs étaient constellés de petits bouts de papier blanc. Et c'était comme des papillons, un peu. Et je lui avais demandé, mais tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Alors il m'avait dit, mais ce sont des phrases, et quand le mur est plein, ça fait un livre. Bon, alors, c'est une façon de parler, bien sûr. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, ce sont des bouts de plâtre qui n'ont pas de sens particulier, mais qu'au bout d'un moment, j'assemble au gré de ce que j'ai envie de faire.
Nous raconter la disposition de cet atelier.
La disposition, oh, c'est un peu là. Alors là, c'est dû un peu au hasard. Alors les pièces très lourdes, elles sont sous le pont roulant, évidemment. Ça, c'est des morceaux de marbre noir qui sont là, qui sont en attente de ce que je vais faire, qui me servent en attendant. Ça me sert de socle, mais ils sont donc sous le rail parce qu'autrement, je peux pas les mettre ailleurs. Bon, ça c'est matériellement parlant. Et puis autrement, non, j'ai disposé ça un peu au hasard, je dirais. Un peu au hasard, sauf peut-être les vestes, là. C'est-à-dire qu'elles réagissent les unes par rapport aux autres. Il y en a qui sont un peu agressives, d'autres plus affalées, en quelque sorte.
Certaines dans l'horizontalité, d'autres dans la verticalité.
Oui, ça leur donne aussi, oui, elles sont à table, en quelque sorte. Elles sont à table, voilà.
Oui, leurs manches sont devant, prêtes à attendre quelque chose.
Oui, oui. C'est-à-dire que C'est un peu l'idée que je me fais. On est en attente de quelque chose. Voilà. Et au fond, ces personnages sont en attente. Alors, bon, je vais vous dire quelque chose, là, parce que il se trouve dans l'Antiquité, les empereurs romains étaient représentés avec une toge, et puis il y avait leur tête. Et quand l'empereur mourait, assez souvent assassiné d'ailleurs, on changeait la tête. Si bien qu'il y avait deux choses. Il y avait l'existence de l'Empire et la direction de l'Empire, qui étaient deux choses différentes. Enfin, c'était la même chose, mais on pouvait les séparer. Et modestement, mes vestes, elles sont, c'est nous, mais avec un doute sur le sens. Quel sens avons-nous? Dans quel sens sommes-nous? Donc c'est une interrogation, encore une fois, sur notre époque où on est dans l'interrogation. Donc il n'y a pas de tête parce que je ne sais pas quelle tête, où est le sens. Mais néanmoins, il y a des vestes parce qu'on existe. On est quand même là, et on vit bien ou mal, on fait des choses, on existe vraiment. Mais il y a un problème sur le sens.
Il y a une apparence au moins, oui, en extérieur.
Oui, mais c'est une apparence, mais qui est en bronze, qui est solide. Je veux dire, c'est pas, on existe vraiment, c'est pas du vide, c'est pas le rien. C'est quelque chose. Si vous voulez, quand on a coupé la tête à Louis XVI, symboliquement, on a changé d'époque, c'est sûr, ça. Alors, depuis, il y a plusieurs têtes qui se sont succédées, avec des tas d'événements. Mais moi, pour l'instant, je suis un peu... je ne sais pas où est le sens de notre époque. Pour moi, c'est une interrogation. Un peu comme, je vous dis, les empereurs romains... Il y avait l'existence de la toge qui était là, qui était comme mes vestes, elles sont là.
La
elles
fonction
existent. Elles existent et elles existent vraiment. Mais où est le sens? Alors là, les empereurs romains, ils ont changé de temps en temps. Et puis, mais moi, je ne vois pas. Alors là, je commence à mettre des têtes depuis quelques années, mais ces têtes sont allusives, elles ne sont pas non plus très marquées. Si un jour je trouve une forme de la tête qui corresponde réellement à un développement du vêtement, à ce moment-là, Giacometti était pas loin de ça, je dois dire. Et alors, je me souviens avoir vu, je ne connaissais pas Giacometti, mais je suis allé dans sa dernière exposition, je pense, et j'étais tout seul, et je l'ai vu dans un coin. Alors, j'aurais dû aller lui dire bonjour, mais je ne le connaissais pas, mais j'étais un peu timide. Mais je le voyais de loin et j'étais très frappé parce qu'il était devant une de ses sculptures en bronze et il l'a caressé. Et tous ses doigts suivaient la trace de ce qu'il avait fait dans la terre. C'était assez émouvant, je dois dire. Bon, il est mort un peu après et c'était assez curieux comme vision, oui. Et Giacometti, c'était un de ses problèmes, hein, le problème de la tête.
Vous voudriez une tête qui prolonge le vêtement?
Oui, alors par exemple dans celle-là, c'est évident que c'est la première tête que j'ai faite, elle prolonge le vêtement. Ouais. Mais j'aimerais aller plus loin, mais ça ne peut pas se faire comme ça, ça ne peut pas se faire en disant je vais le faire. Il faut que ça vienne tout seul. La volonté n'est pas très, très créatrice, il faut que ça vienne tout seul, quoi. Il faut travailler, il faut attendre. Il faut un peu solliciter, mais si on veut le faire, on n'y arrive pas.
Hein, ça vient de la conscience, ça vient de plus loin
je
que de la volonté.
Je ne sais pas, ça je ne sais pas du tout. Mais c'est comme ça, on peut le constater, quoi.
Thank you. Avec nous dans cet atelier, Lydia Rambourg, historienne de l'art et critique d'art qui connaît bien Claude Abeille. Et Lydia Rambourg a remarqué une sculpture restée dans un coin de l'atelier, une œuvre de petite taille inspirée par l'indifférent de Watteau.
J'aimerais bien que Claude parle d'un thème sur lequel il a beaucoup travaillé, c'est celui de l'indifférent de Watteau. On ne l'a pas encore évoqué. Et là, il y a aussi peut-être... Alors, il y a la verticalité, mais il y a ce désir aussi d'envol, parce que je trouve que tous ces personnages, ces pardessus, ces vêtements, aspirent quand même à l'envol. Le pli, c'est aussi se décoller un peu du sol. Et il y a un mouvement, il y a donc ce désir d'esquisser un pas. Et là, il y a quelque chose de très subtil chez Watteau, dans cette peinture, cette toute petite peinture, et je trouve que Claude s'est glissé un peu dans cette chose qui est tellement difficile à traduire à travers une peinture, mais quand on est dans le volume, là on tourne autour, et là ça virevolte, et le personnage est vraiment un personnage dansant. Alors peut-être que Claude peut nous parler un peu de ce qui a déclenché cette envie justement d'aller plus loin à travers les plans et les volumes.
Bon, alors, l'indifférent de Watteau, bon, comme tout le monde, c'est une peinture que j'ai toujours beaucoup, beaucoup admirée. Mais un jour, je me suis dit, mais c'est drôle, ça ressemble beaucoup à une sculpture qui était très célèbre au XVIIIe siècle, qui l'est beaucoup moins maintenant, c'est l'Apollon du Belvédère. Alors, l'Apollon du Belvédère, il a un mouvement un peu de danse aussi. Il a un vêtement à droite ou à gauche, je ne sais plus, parce que je pense que Watteau devait connaître la chose d'après des gravures, donc qui étaient un peu à l'envers. Voilà. Alors c'est une idée à moi, parce que j'ai interrogé les gens compétents, dont Lydia Rambourg, qui m'a dit mais on n'en sait rien, il n'y a pas de document, effectivement. Donc il n'y a pas de document. Mais c'est une idée à moi. Que Watteau aurait pu s'inspirer directement de l'Apollon du Belvédère. Et alors, si on le croit, moi je le crois à moitié, mais je me suis dit, je vais faire ce que Watteau a fait, mais à l'envers. C'est-à-dire que je vais, moi, faire une sculpture, non pas d'après l'Apollon du Belvédère, mais d'après l'indifférent. Mais je vais le faire, je vais vraiment copier. Je ne vais pas interpréter. Alors, bien sûr, quand on copie, on interprète toujours, mais normalement, je vais faire ce que je crois. Sauf que, évidemment, le dos, il n'y a pas de dos dans la peinture de Watteau, donc j'ai dû inventer le dos. Mais je l'ai inventé aussi, de manière vraisemblable. Et puis, après avoir fait ça, je me suis dit, mais au fond, c'était un élargissement du thème du vêtement, parce que, au lieu que ce soit un vêtement vide, c'est quelqu'un qui a un rapport avec son vêtement. Donc le thème du vêtement se coupait en deux, si je peux dire. Et je me suis dit, je vais quand même voir ça. Alors j'ai effectivement travaillé dans ce sens-là. Et le vêtement possède un sens différent du personnage qui le porte. Et à ce moment-là, le vêtement prend un autre sens. Ce n'est plus tellement la manière dont le personnage se comporte dans le monde, enfin dans la société, disons, des choses comme ça. Mais il est avec lui-même, c'est-à-dire alors le vêtement devient sa propre conscience, donc il se bat à la fois contre lui-même ou avec lui-même, et c'est, je dirais, un élargissement du thème du vêtement. C'est-à-dire, où est le vrai ? Est-ce qu'il est dans le personnage ou est-ce qu'il est dans le manteau ? Alors on a des exemples ici où il y a un personnage qui est quand même assez vraisemblable, je dirais, et puis il y a son manteau, là aussi. Là, il se...
Ses ailes ?
Oui, ses ailes, si on veut. Enfin, c'est un élargissement du thème qui était... qui m'a intéressé, quoi. Voilà.
Vous avez surtout représenté des manteaux et des pantalons qui sont qui impriment le corps. En fait, vous n'avez pas choisi des chemises ou des vêtements plus souples. Le vêtement se porte quotidiennement.
Si c'est pas, c'est quand même. Oui, bah c'est d'ailleurs là, c'est parce que oui, je sais pas pourquoi, mais non, j'ai jamais cherché à copier réellement un vêtement. C'est une métaphore, je dirais. Ce sont des formes qui ont un rapport avec le vêtement, mais ce n'est pas un vêtement transformé en sculpture. C'est le contraire. C'est une sculpture qui prend la forme du vêtement. Voilà. Un peu comme ça, là, on peut le voir. Moi, j'appelle ça la cathédrale parce que c'est une veste, mais évidemment très interprétée, et ce sont des colonnes, quoi. Là, par exemple, c'est sans manches, mais c'est un. Bon, il n'y a pas de manches du tout, et c'est un personnage qui a un vêtement qui, normalement, devrait exprimer, je dirais, une émotion. Quand on a une émotion, on a des battements de cœur, etc. Et il y a d'ailleurs une sculpture de Max Ernst qui est très, très différente de ça, mais où il exprime aussi ça, un peu. Je crois que ça s'appelle le cœur battant. Et ça m'avait beaucoup impressionné. C'est une petite chose, mais très, très sentie.
Vous avez aussi fait quelques personnages.
Voilà, alors c'est un nu, ça, voilà. Qui est là-bas. C'est assez rare, mais
le vêtement est une grande boule au-dessus de la tête.
Voilà, c'est
ça. Et on voit le corps sous cette boule de vêtements.
Voilà, donc ça, c'est un peu à la suite de l'indifférent de Watteau, quoi. Il y a le corps de la femme, bon, et puis il y a sa chemise, quoi. Alors ça, c'est un thème aussi. Je retrouve de cette façon des thèmes complètement classiques, quoi. Bien sûr, ça, c'est pas.
Ce qui est beaucoup moins classique, ce sont vos pantalons qui sont beaucoup plus rares. Aussi.
On est à une époque où le pantalon est très porté, je dois dire. Mais j'ai fait des jupes aussi. J'ai fait des jupes. Là, je crois qu'il y en a pas là. Non. Mais. Oui, je ne suis pas.
Est-ce qu'il y a une volonté de représentation sociale chez vous ou
non,
pas du tout.
Non, pas du tout. Je ne suis pas compétent pour ça. Non. C'est plutôt. Alors, on dirait plutôt un peu philosophique, mais je ne suis pas philosophe. Mais enfin, je lis de la philosophie, je suis un peu au courant quand même. Mais
Vous lisez qui?
Oh. Là, je lis la philosophie grecque, Aristote, d'autres, saint Thomas. Mais ça, je prétends pas être un intellectuel au sens où quelqu'un qui a des idées précises. Non, je ne sais pas. Ce que je peux seulement dire, c'est ce que ma sculpture dit, c'est-à-dire cette interrogation. Voilà. Donc c'est pas. Est-ce que c'est de la philosophie? Oui, un peu, sans doute, mais je prétends pas, quoi.
Interrogation sur la représentation et sur l'être.
Oui, c'est ça. Oui. Une des choses qui m'avait intéressé, c'était quand j'ai commencé à faire fondre des choses en bronze, c'est que le bronze était creux. Moi, au début, je savais pas. Et puis je me suis dit, mais oui, le bronze est creux. Et alors. Et je me suis dit, mais bon, il faut quand même peut-être y réfléchir et en faire quelque chose. Et alors, j'ai fait le torse vacant, qui est ici, là, si vous voulez. Voilà. Alors ça, c'est un torse qui est, si je peux dire, le début des vêtements.
En 1975, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui, voilà. Alors, bon, il y avait les torses, et en voyant que vraiment le bronze était creux, je me suis dit, je vais faire un torse creux. Et un torse vacant, donc cette idée de quelqu'un qui attend quelque chose. Voilà. Après ça, je me suis dit, mais on peut dire que nous sommes comme des sacs, un peu, si on est un peu pessimiste. Quoi. Alors, j'ai fait les sacs que vous voyez là. Et chose curieuse, j'ai fait ces sacs en même temps qu'un autre sculpteur, qui était Claude Marie. Alors un jour, on se téléphone et puis on dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais des sacs. Ah, moi aussi. Donc on était en même temps, sans le savoir, dans cette question-là. Alors, elle le faisait de manière un peu différente, évidemment, que moi, mais c'était assez amusant de voir qu'on était exactement le même âge que moi, donc, et elle est élève de Germaine Richier, elle.
Et c'est ça que podium, donc les gagnants d'une course.
Oui, parce que je trouvais qu'il n'y a pas plus ridicule que les Jeux Olympiques. Moi, je suis le seul de cet avis, apparemment, mais bon, je me suis dit, je vais faire un podium et je vais faire 3 sacs. Il y a la médaille d'or, c'est un sac plus grand que les autres, évidemment. Et puis il y a les deux, sacs, la médaille de bronze et d'argent. Et puis il y a aussi un quatrième sac qui est le spectateur, qui est content de contempler les 3 autres sacs. Voilà. Mais ça n'a pas eu beaucoup de succès, parce que c'est quelque chose que les gens ils trouvent le sport tellement extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup le sport, mais individuellement. Enfin, j'ai fait du vélo, comme ça, comme tout le monde. Et puis, voilà.
Après cette visite de l'atelier de Claude Abeille, nous nous sommes rendus au premier étage de la maison, là où le sculpteur prépare ses œuvres, là où il les conçoit ou parfois les réforme en les couchant sur du papier. Ce sont de multiples petites figures étalées sur les murs, en crayonné, en aquarelle ou en gouache.
Vous avez pris des cours de dessin, vous vouliez être peintre, non, au tout début?
Oui, c'est-à-dire, oui.
Bon, tout jeune.
C'est-à-dire, mon grand-père était aquarelliste, mon père dessinait beaucoup, et la sculpture, je ne savais pas ce que c'était, au fond, tellement. Et donc, je voulais être peintre. Et oui, ça, c'est ce que je voulais, mais tout au début, même, il est évident que j'étais beaucoup plus doué pour la sculpture que pour la peinture. Mais j'ai toujours aimé la couleur. Mais enfin, c'est... Non, je suis sculpteur, c'est sûr, ça.
Toutes vos sculptures sont en noir et blanc. Est-ce que vous avez jamais pensé à y ajouter de la couleur?
Si, en ce moment, c'est ce que je fais un peu, parce que je trouve amusant de... Bon, voilà, ce sont des résines. Donc, c'est une transposition. Je ne peux pas mettre de la couleur tellement sur mes vêtements, parce que ce serait les colorer, en quelque sorte. Donc, et ça ne marche pas. C'est pas la peine, quoi. Mais si je veux mettre de la couleur, et c'est ce qui m'intéresse en ce moment, il faut que la sculpture se simplifie ou change de forme. Donc la sculpture porte la couleur, et la couleur influe sur la forme. C'est un problème, hein, de la couleur sur la forme. Chaque couleur, elle se situe dans l'espace de manière différente. Le bleu, souvent, va plutôt vers le fond. Le rouge est plus agressif en général. Bon, tout ça n'est pas sûr toujours, parce que notamment à Bourges, le fond des vitraux est rouge, ce qui est toujours curieux, ça m'a toujours étonné. Mais on peut, naturellement, tout est possible. Et là, dans mes sculptures où je mets de la couleur, c'est encore une fois un combat entre le... Un combat, c'est le mot est trop fort, mais c'est un certain type de rapport entre la forme, donc qui prend la lumière, et la couleur. En ce moment, je suis un peu attiré par ce problème-là. Voilà, c'est un problème, voilà, qui moi m'amuse, enfin plus que ça, mais je suis sculpteur. Ça, c'est un à côté qui me plaît beaucoup, mais je suis surtout sculpteur. Voilà.
Vous êtes surtout sculpteur et nous voici dans une pièce où il y a essentiellement des dessins. Des dessins qui précèdent, qui accompagnent vos sculptures.
Non, alors, le dessin, il faut, je crois, bon, ça c'était une théorie à moi, mais enfin, beaucoup de gens pensent ça, c'est que le dessin, au XVIIIe siècle, on écrivait dessin, D-E-2-S-E-I-N. C'est-à-dire que le dessin est une volonté. Bon, est une volonté qui est facile à faire, si on veut, enfin, parce qu'il suffit d'un bout de crayon et d'un bout de papier. Bon, donc, matériellement parlant, il n'y a aucun problème. C'est vraiment un bout de charbon, n'importe quoi, fait l'affaire. Mais, alors là où ça commence à être difficile, c'est, bon, que faire avec ça? Et c'est là le problème du dessin. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la volonté? Enfin, la volonté, non, c'est pas la volonté, c'est le parti. Quel parti on prend, voilà. Alors, et ça recouvre le dessin d'architecture, le dessin de peinture, le dessin, enfin, tous les dessins, même pour faire un meuble, c'est un dessin, c'est un plan, si on veut. Mais c'est ce qui dit, ben voilà, c'est comme ça que je voudrais la chose. Donc, forcément, à mon avis, enfin, il y a des sculpteurs qui ne dessinent pas, mais je me suis toujours demandé. Comment c'était possible, mais bon, peut-être c'est possible. Mais en tout cas, pour moi, le dessin est quelque chose qui accompagne ma sculpture, soit que ça précède, soit que ce soit au moment où je le fais. C'est-à-dire à ce moment-là, le dessin a un rapport différent avec... Enfin, ce n'est pas la sculpture, c'est simplement quelque chose qui est à côté, ou bien, après avoir fait la sculpture, je me dis, mais j'aurais dû ou pu faire autrement. Alors, c'est un dessin qui vient après. Voilà. Et quelquefois, le dessin qui vient après, c'est le dessin qui va précéder une autre sculpture. Le dessin est quelque chose qui est parallèle.
Et pourtant, dans deux pièces séparées, est-ce que vous dessinez aussi dans votre atelier de sculpture?
Ah oui, ça je peux, mais non, mais c'est pas pratique, c'est tout. C'est simplement. Non, moi, ça m'amuse de faire comme des bandes dessinées, quoi. D'essayer de trouver grâce au pinceau, soit il y a du hasard, il y a de... Matériellement parlant, c'est beaucoup plus facile que, évidemment, tailler dans la matière, c'est sûr. C'est plus...
Oui, et puis vous pouvez déjà prévoir les jeux de lumière.
Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, je prends des parties, si vous voulez. C'est plutôt une question de est-ce que ça va être en hauteur, est-ce que ça va être en diagonale, est-ce que ça va être penché ou pas trop, etc. Et alors, au bout d'un moment, bon, je le mets de côté, puis ensuite je puise dedans. Quoi. Ici, c'est probablement, je vais faire une chose comme ça en marbre, dans le marbre noir qui est en bas. Mais ça date de 97, donc 10 ans après, si vous voulez. Quelque chose que j'avais noté sur le moment. Et ça, c'est une chose que j'ai vue au Louvre. Je me baladais dans le Louvre et il y avait une fille, une jeune fille, qui était comme moi, comme ça. Et elle avait mis son chandail autour de ses hanches. Si bien qu'elle avait ses bras, mais elle avait aussi son chandail. Mais j'avais essayé d'en faire un dessin après, sur les hanches, mais sur les hanches, ça ne colle pas. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne collait pas. Je me suis dit, mais je vais faire comme si elle avait mis son chandail sur ses épaules. Donc ça lui fait 4 bras. Mmh. De là à faire comme une sorte de nœud. Donc ce sort de cylindre. Elle n'était pas comme ça quand même, la pauvre. Mais ça fait une sorte de cylindre et qui est au-dessus, il y a cette chose-là. Alors, bon, voilà, c'est pour vous dire à quoi ça me sert. Quoi.
Là, il y a une délimitation dans l'espace qui est totalement différente de la sculpture. Vous vous y retrouvez quand même sur
face
plane.
Ah oui, 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 bien sûr.
Avec des fonds de couleurs que vous n'avez pas dans votre atelier.
Alors, non, mais ça, les fonds, c'est un peu le contexte du dessin. C'est un problème. Non, moi, ça me sert à corriger aussi. Ou à, quand je ne suis pas sûr de cette forme-là, je vais faire agir le fond. Alors ça, c'est du papier, je veux dire, c'est un papier introuvable. C'est du papier que j'ai acheté en Espagne il y a, on va dire, il y a 40 ans. C'est d'un boucher. C'est du papier de boucher. Et le boucher était un peu étonné que je lui achète du papier plutôt que de la viande. C'est un papier qui a un côté parchemin, il y a un côté un peu rêche. Et oui, qui s'accroche à gouache bien. Et le ton est assez chaud. Alors j'en ai encore une trentaine de feuilles. Voilà.
Vous avez déjà pu entendre un peu plus tôt dans cette émission Lydia Rambourg, historienne de l'art. Et face au dessin de Claude Abeille, voici le regard toujours juste et précis de Lydia Rambourg.
Moi, je suis assez éblouie quand je vois tous ces dessins. Enfin, ce sont des grandes feuilles sur lesquelles il y a donc des dessins, des sujets à l'aquarelle. Ça fonctionne un peu comme une partition musicale. Alors, c'est vrai qu'il y a du rythme. Ce qui me frappe et ce qui m'éblouit vraiment, c'est la justesse avec laquelle le pinceau arrête le mouvement. C'est de l'aquarelle, c'est de la gouache peut-être, il y a peut-être un peu de gouache, mais c'est très délavé quand même, la couleur est très vive, et donc il n'y a pas de repentir. C'est-à-dire qu'immédiatement, la main est ajustée à l'esprit, enfin, à ce que la mémoire aussi, parce qu'il y a un enregistrement d'un mouvement, donc il faut faire advenir tout de suite sur l'espace de la feuille. Et c'est d'une justesse et d'une présence. Alors ça vit énormément, et on sent effectivement, puisque ce sont encore des personnages qui sont ceux de la sculpture de Claude Abeille, donc ces grands manteaux qui volent ou au contraire qui sont plaqués sur le corps. Alors c'est vrai que là, il y a des têtes qui apparaissent, mais encore une fois, c'est extrêmement vivant. Il y a une dynamique que je trouve tout à fait éblouissante et qui, moi, me touche beaucoup. Alors cette juxtaposition de petites figurines, on va dire, elles sont isolées et elles sont dans leur espace propre, elles s'isolent et en même temps, comme elles sont juxtaposées, ça donne un mouvement narratif, une fresque. Et alors il y a une histoire qui émerge, parce que suivant les attitudes, les figures qui se penchent, au contraire qui se redressent, qui s'inclinent différemment, ça crée une histoire, ça crée une narration. Et là, ben, c'est l'imaginaire qui va travailler pour celui qui va regarder, et chacun va se raconter sa propre histoire.
Pour finir cette émission, Claude Abeille a accepté de commenter certaines œuvres, des œuvres encore en projet ou moins connues.
Ce sont des morceaux de tissu qui pendent à un fil. Ce sont des
non, qui oui, non, c'est une lessive.
Oui.
Et bon, assez souvent au mois d'août, on va avec ma femme, on a on va à Maussane, et alors il y a un jardin, et alors on fait la lessive, et on met les chemises et les pantalons, on les met à la corde pour que ça sèche. Voilà. Et alors, moi, quelquefois, quand il y a du mistral, ce qui arrive assez souvent, eh ben, ça bouge, quoi. Voilà. Alors je me suis dit, justement, c'est une des rares sculptures horizontales que je vais faire. Et pour l'instant, elle est en. J'ai essayé d'en faire une déjà, mais c'est un échec. Donc je laisse un peu du temps et puis je vais la reprendre. Mais en attendant, je dessine donc tout ça qui là, c'est plus proche de la peinture que de la sculpture. Il faut bien le dire. Mais ça m'amuse de voir ça. Et puis.
Donc bon. Ça sera un ensemble de sculptures côte à côte, vous allez faire ça ?
Non, ce sera une chose horizontale, comme ça, là, voilà. Avec peut-être de la couleur, je pense, aussi. Oui, j'ai travaillé un mois sur la sculpture et pour arriver à rien. Mais bon, ça fait partie des joies du métier. Voilà. Enfin, j'ai dessiné, voilà. Donc, je garde les dessins qui peut-être vont m'aider à repartir sur une autre base. Mais enfin, c'est une chose que j'ai vraiment envie de faire. Parce qu'on peut, chaque vêtement qui est pendu, bon, c'est comme une veste au fond, mais il y a certaines vestes qui vont prendre un autre sens, puisqu'elles se mettent à voler d'une autre manière. Donc, je ne sais pas, il y a là comme une petite histoire que je vais raconter. Bon. Mais pour l'instant, je vous dis, c'est un peu comme ça. C'est...
Ouais, encore des vêtements en mouvement qui s'envolent.
Oui, c'est ça. Oui, c'est toujours le même thème. Hein. C'est, je crains même que je n'en sorte pas.
Et parce que le vent, en fait partie de vos sculptures, on croirait qu'il
oui,
croirait
oui.
qu'il y a un vent qui souffle dans votre atelier.
Oui, c'est vrai que ben c'est un peu la vie, c'est le mouvement de la sculpture c'est la vie, oui, on peut dire ça. Enfin, si on disait ça, ça me ferait plaisir. Oui, c'est ce qui donne, c'est le souffle un peu. J'ai fait une sculpture qu'on appelle le souffle. Là, elle y est pas là, elle est pas en bas, mais elle est dans le livre. C'est toujours le rapport entre le personnage et un autre personnage qui est lui-même. Et donc il se bat avec lui-même et contre lui-même ou avec lui-même.
Oui, là, voilà. Là, on dirait que ce personnage porte un autre dans son dos.
Ben, c'est lui-même.
Oui.
Oui, moi je me porte et quelquefois j'en ai marre un peu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a tous un sac plein de sottises, plein d'espoir. Plein de choses, mais on a tous son sac. Et avec l'âge, le sac pèse un peu. Hein. Moi, je commence à avoir mal au dos. Et oui, on a tous ça. C'est une morale un peu, voilà. Alors là, j'ai fait une gravure. Donc ça, c'est un burin avec aquatinte. Bon, j'appelle ça le professeur. C'est-à-dire, c'est moi quand j'étais professeur. Et alors, ils sont doubles, quoi. C'est parce que le professeur, il est à la fois lui-même, mais il est porteur de quelque chose qu'on lui a appris ou il s'identifie avec l'élève. Bref, le personnage est double. Et il n'a pas de tête. Bon. Mais ça, j'étais un peu pessimiste.
D'accord. Donc, à chaque fois qu'il y a double manteau ou double couche, c'est qu'il y a double identité ?
On peut le dire, mais bon, je vous dis ça parce que c'est une explication que je me donne à moi-même. Mais comme je vous ai dit, la sculpture ou la peinture, c'est quand même un peu mystérieux. C'est une explication que je me donne et qui m'aide à travailler. Mais je ne suis pas sûr que ce soit... Je crois que c'est très, très énigmatique. Parce que quand on voit l'art du passé et que toutes les époques interprètent de manière différente l'art du passé. Donc la sculpture, la peinture, les arts, la poésie sont porteurs de plusieurs sens. Alors quand il y a un seul sens, en général, ça disparaît avec l'époque, parce que ça avait un sens dans telle époque, mais quand c'est plus profond que ça, ça correspond à l'homme en général, je dirais. Donc, à ce moment-là, ça peut rester et ça peut agir sur les époques suivantes. Mais la difficulté, c'est que si on fait quelque chose en ayant tout à fait dans la tête de travailler pour l'homme en général, le plus souvent, ça ne donne rien parce qu'il y a une volonté de le faire, donc ce n'est pas profond. Il faut que ça vienne tout seul. Bon, il y a des articles qui parlent pour le monde entier, mais sans le vouloir. Enfin, Mozart, par exemple, parle pour le monde entier et pour toutes les époques. Mais je ne crois pas qu'il ait eu cette idée-là en tête. Il faisait ça parce qu'il en avait envie. Donc quand on veut le faire, souvent ça ne marche pas. Alors c'est pour ça qu'il faut être un peu humble et puis on fait ce qu'on peut, quoi. Moi, les explications que je vous donne là, ce sont des explications dont je me sers moi pour réfléchir. Mais,
et qui viennent après coup.
Ça vient le plus souvent après coup, oui. Pas toujours, mais le plus souvent.
Il y a là la médaille que vous aviez gravée
de Raymond Queneau. J'ai fait ça, mais il était triste quand j'ai fait cette médaille, parce que sa femme elle venait de mourir et il était très, très touché. C'était un couple, enfin, ils s'aimaient. Ben, c'était au moment où je travaillais chez Gallimard. Donc Raymond Queneau était un homme extraordinaire. Il avait surtout un rire. Enfin, je parle de l'homme chez Gallimard, quoi. Il avait un rire qu'on entendait jusqu'au dernier étage. Il était drôle, mais c'était un homme remarquable. Il a posé un peu quand je lui ai fait ça. Attendez, on va le mettre. Voilà. Ça, c'est le plomb original. J'ai fait ça en plomb. Mais ensuite, ça a été fait à la monnaie, mais la patine de la monnaie est un peu désagréable. Enfin, ça, il a un air quelquefois un peu tragique parce qu'il n'était pas gay, quoi, là, dans cette circonstance.
Merci beaucoup, Claude Abeille. Merci pour votre accueil.
Mais non, mais je vous en prie, c'était un plaisir de parler avec vous, avec Lydia. C'était parfait.
Vous avez donc pu entendre dans cette émission Claude Abeille, qui nous a reçus dans son atelier à Romainville, près de Paris. Vous pouvez réécouter cette émission à loisir en la téléchargeant sur www.canalacademy.com. Vous y trouverez quelques grandes dates qui ont marqué la carrière de Claude Abeille et puis une série de photos proposées notamment par Louis Monnier. Cette émission a été réalisée par Lucien Pénaud. Merci de votre écoute et à bientôt.